Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous poursuivons les sermons sur la grande vertu de justice, sur la vertu de justice sociale, comme je vous l'ai déjà dit. Nous verrons la justice entre égaux un peu plus tard. Et nous avons vu dimanche dernier les premiers ennemis de la vertu de justice. Il nous reste à voir des ennemis plus immédiats, plus concrets, mais ne vous méprenez pas. Les ennemis que j'ai dénoncés dimanche dernier font énormément de mal. C'est un drame qu'aujourd'hui nous n'ayons plus de chrétienté, ni de modèle même de chrétienté, ce qui tue évidemment l'idéal commun, puisque l'idéal commun, c'est la chrétienté. Les ennemis beaucoup plus concrets et contre lesquels vous pourrez un peu plus facilement lutter, il va falloir lutter. Tout d'abord, les biens matériels. Parce que la vertu de justice, je parle toujours de la vertu de justice sociale, légale, la grande vertu de justice, porte évidemment sur des biens spirituels, un peu sur des biens matériels, bien sûr. Nous mettons les biens matériels à la disposition de la cause que nous servons. Mais nous ne mettrions pas les biens matériels, nous ne les ferions pas entrer dans la justice s'ils n'étaient pas justement au service d'une cause. Et donc c'est cette cause qui est la plus importante. Et cette cause, puisqu'il s'agit de la justice politique, la justice sociale, cette cause est nécessairement une cause spirituelle, un bien spirituel. C'est la connaissance, c'est la contemplation de Dieu, c'est surtout la vertu, la pratique de la vertu. C'est un idéal commun de civilisation mis en œuvre à tous les étages de la vie sociale. Un bien spirituel, plus il est spirituel, plus il peut être commun. Et un bien, moins il est spirituel, moins il est commun. On dit que la route, par exemple, est commune à tout le monde, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Tout le monde peut la prendre, mais sur la route, à chaque endroit, il n'y a qu'une seule voiture et non pas deux, sinon il y a un accident. Par conséquent, en développant les biens matériels, la fausse civilisation, car ce n'est pas une civilisation, la fausse civilisation moderne développe l'égoïsme et tue l'idéal, l'enthousiasme, par conséquent, tue la vertu de justice. Le confort est un mot français qui veut dire soutien apporté à quelqu'un. Ce mot est passé dans la langue anglaise et il a pris le sens de ce qui donne de l'aise sensible, matérielle, être à son aise, le sens qu'on connaît aujourd'hui. Et ce mot « confort » est revenu dans la langue française, ainsi déformé au XVIIIe siècle seulement. « Comfortable » en anglais, cela, c'est un mot anglais qui signe bien cet esprit matérialiste qui pénètre notre société, et particulièrement au XVIIIe siècle. Eh bien, le confort tue la vertu de justice. Parce que le confort crée l'égoïsme. Quand on est à l'aise dans un fauteuil, on n'a pas envie de se lever pour faire un effort et partager son idéal avec quelqu'un qui en a besoin. Vous allez me dire peut-être que j'exagère, mais je n'exagère pas du tout. Il suffit d'aller aux États-Unis pour voir. La vie de famille aux États-Unis est complètement disloquée, ne serait-ce que par les frigidaires. Tout le monde se sert n'importe quand dans le frigidaire. Vous allez me dire, c'est connu, je ressasse des choses connues. N'empêche que elles sont connues, mais on oublie les effets. Et maintenant, on a des gens, même en France, parce que j'ai vu ça aux États-Unis il y a 20 ou 30 ans, on a en France ces mœurs de sauvages qui se développent. Le développement du confort, des biens matériels, on y remédie par la pauvreté. La pauvreté est un remède direct à ces problèmes, et la pauvreté développe d'elle-même la vertu de justice politique et sociale. Parce que la pauvreté montre la vanité des choses matérielles et libère l'esprit. Elle libère l'homme pour des tâches qui en valent la peine. Lorsque j'étais jeune, assez souvent, mes parents, mon père, nous racontaient ce qu'il avait entendu aux réunions de parents d'élèves de l'enseignement catholique dans lequel nous étions. Il le faisait évidemment pour que nous entendions, et j'ai retenu beaucoup des choses qu'il nous disait. Notamment, le père d'un ami que j'aimais bien fit remarquer que l'arrivée de la machine à laver la vaisselle chez eux, dans une famille un peu nombreuse, 8-10, l'arrivée de la machine à laver la vaisselle avait supprimé les conversations seul à seul avec les enfants le soir. Il y avait des tours de vaisselle. Le père de famille ou la mère de famille pouvait facilement s'entretenir avec les enfants lors de la vaisselle. On a l'arrivée de la machine. Une fois que la machine est pleine et mise en route, chacun va dans sa chambre. Que dire de la télévision qui a supprimé les veillées le soir? Les veillées sont un acte commun et donc sont vécues dans la vertu de justice. Il y a des pays qui ont un peu plus résisté. Je crois que la Corse a longtemps pratiqué les veillées. C'est raconté par cet auteur, le nom va me revenir là, ce cheminot, qui raconte les veillées dans son pays qui était dans la Côte d'Or, Vincenot, qui hélas est un petit peu gnostique, mais c'est dommage parce que ce qu'il raconte sur la vie qu'il a connue est tout à fait extraordinaire. Ou plutôt ordinaire, mais comme on a tout oublié, ça nous paraît extraordinaire. Et puis vous avez évidemment ces fichus téléphones portables. Alors on ne dira jamais assez de mal de ces téléphones portables. Le premier, alors évidemment lié à Internet, avec toutes les messageries et tout le reste. La première chose du téléphone portable fait que l'on ne vit plus en société. On croit vivre en société, on croit avoir des amis. Alors je ne vous parle pas de tous les Facebook et compagnie. Je ne sais même pas comment ça marche. Dès que je vois un truc Facebook qui apparaît sur un écran d'ordinateur, je ferme. Je ne veux pas savoir. Voilà, il y aurait bien plus. Maintenant, vous avez tous les Instagram et compagnie. C'est des pièges, des pièges et des pièges. Et le téléphone portable, j'étais avec les amis de Saint-Jean-Bosco. Là, nous avons fait un périple à bicyclette sous le cagnard du mois de juillet, 38 degrés à l'ombre. Nous avons terminé au Neufour, dont les habitants sont les Neufouriens. Nous avons été reçus très très gentiment par le maire du Neufour, un très brave homme. Et il était dans l'admiration, c'était le petit déjeuner à 6h du matin, 6h30. Et bon, vous imaginez la joie, la bonne ambiance. Les garçons finissaient la randonnée et puis ils m'accompagnaient pour mon périple apostolique en Alsace. Donc ils allaient servir la messe le matin, puis celle du soir, etc. Ils étaient très contents de partager le travail de leur père. Et le maire me fait la remarque, il me dit « Ah, c'est beau ça, cette jeunesse, aujourd'hui, il n'y a plus moyen de communiquer avec la jeunesse, ils sont tous derrière leur téléphone portable. » Alors, il ajoute « Oh, bien sûr, on ne peut pas les supprimer, mais enfin, si on pouvait au moins les réguler. » Je dis « Non, non, monsieur le maire, on peut très bien les supprimer. » Alors, je m'adresse au garçon qui était à ma droite. « As-tu un téléphone portable ?» Il me répond « Oui. » Je lui dis « Avec un écran. » Il me dit « Ben non, c'est fait pour téléphoner, ça n'a pas besoin d'écran. » Le deuxième, pas de téléphone portable. Le troisième, pas de téléphone portable. Le quatrième, il en avait un pour téléphoner, c'est tout, rien d'autre. Et le cinquième, pareil. Le maire était stupéfait, ébahi. C'est possible. Eh oui, monsieur le maire, bien sûr que c'est possible. Le téléphone portable, même pour les adultes. Regardez toutes ces caricatures de la visite à la grand-mère. Je pense que vous les connaissez, ces caricatures. Vous avez la grand-mère qui est au milieu de tous ses enfants et ses petits-enfants. Ils sont tous sur les téléphones portables et la grand-mère est toute seule au milieu. Ils ont l'impression qu'ils ont rendu visite à grand-mère et elle est toute seule. Mais le problème, c'est que cette caricature plaît parce qu'on dénonce le problème, mais chez les autres, pas chez soi. C'est un problème pour les autres, pas pour nous. Père de famille et mère de famille qui m'écoutaient, les téléphones portables sont à proscrire. Je voudrais vous dire un mot également de l'autorité. La disparition de l'autorité a-t-elle fait disparaître, contribué à faire disparaître la vertu de justice politique, sociale, cette vertu de l'idéal dont je vous parle? Oui et non. En tout cas, ce n'est pas en restaurant l'autorité, comme on l'entend aujourd'hui, qu'on restaurera cette vertu de justice. Au contraire, on a utilisé l'autorité pour détruire la vertu de justice. Parce que, je vous en parlerai lorsque nous en viendrons à l'obéissance, mais la vertu d'obéissance est une vertu annexe à la justice, elle n'est pas la justice. Là, il faut dans toute société, c'est saint Thomas qui dit cela, un principe d'autorité. Il dit un principe et non pas un chef. Et lorsque le chef commande et qu'il est dépositaire de l'autorité et qu'il exerce l'autorité, il l'exerce pour faire pratiquer la vertu de justice politique et sociale et non pas pour imposer sa volonté personnelle. Lorsque le chef impose sa volonté personnelle, cette autorité n'est plus de l'autorité, elle est de la tyrannie. Et aujourd'hui, ce qu'on connaît comme autorité, c'est de la tyrannie. Je ne parle pas seulement de la tyrannie des gouvernants, mais je parle de la tyrannie dans la fraternité Saint-Pédis, de la tyrannie dans la vie professionnelle, et même dans beaucoup de familles, l'autorité paternelle est ressentie comme une tyrannie, comme le père ne veut pas être un tyran, mais il n'exerce plus son autorité. Alors, comment faut-il restaurer l'autorité? Parce que Mgr Felet nous en parlait, ça. Il nous a fait une fois une analyse sur l'état de la jeunesse d'aujourd'hui, et notamment telle qu'on la trouve dans les séminaires, parce que tout ce qu'on trouve dans les séminaires, ben, c'est ce qu'on a trouvé dans le monde. Ce sont les meilleurs, mais enfin, ils viennent du monde. Conclusion de Mgr Felet, il faut restaurer l'autorité paternelle. Ah, mais ça ne va pas, parce que qu'est-ce que l'autorité paternelle? Il ne nous l'a pas dit. Il faut restaurer chez les titulaires de l'autorité le sens, l'idéal de la vertu de justice, de la justice politique, l'idéal pour un bien qui nous dépasse. Il faut que, comme le roi Saint-Louis, que nous fêtons aujourd'hui, enfin hier samedi, il faut que, comme le roi Saint-Louis, nous soyons captivés par un idéal qui nous dépasse. C'est cela la véritable autorité. Aujourd'hui, on entend très souvent dans la tradition, y compris dans la fidélité catholique, que le remède à la crise, c'est la restauration de l'autorité. Et comme l'autorité n'est plus l'autorité, plus on la restaure et plus on détruit la vertu de justice. Parce que le remède, c'est la restauration de la vertu de justice, et la restauration de la vertu de justice crée des autorités, parce qu'elle met les gens, comme je vous le disais, c'est une vertu générale, elle met les gens au service de l'idéal, et naturellement, quand on se met au service de l'idéal, il y a ceux qui précèdent et ceux qui suivent. Et naturellement, ceux qui suivent se mettent volontiers au service de celui qui précède, à la suite de celui qui précède, parce qu'ils le reconnaissent naturellement comme chef. Pourquoi ? Parce qu'ils voient en lui l'idéal. Voilà. Il faut que je vous dise également un mot, parce que j'ai une petite histoire à vous raconter. Commençons par l'histoire. C'est raconté dans le livre du père Bulliard, Inuk au dos de la terre, l'apostolat chez les Esquimaux. Il raconte la vocation d'un de ses amis. Cet ami avait la vocation et il se trouve qu'il est malade à l'âge de 16-17 ans. D'une maladie qui n'était pas grave, mais il se trouve à la clinique. À l'époque, pour une petite opération, on restait facilement plusieurs jours. Et dans la clinique, il y avait des religieuses. Bon, j'en ai connu, des religieuses qui étaient très gentilles, qui avaient beaucoup de qualités. Et cette religieuse dit à ce jeune homme, « Alors, jeune homme, quand vous serez guéri, qu'est-ce que vous ferez? Quels sont vos projets d'avenir ?» Et le jeune lui répond, « Oh, ma sœur, j'avais songé à la vocation, mais après tout, on n'est pas obligé de suivre, de se faire prêtre. Moi, j'ai envie de profiter de la vie et de la liberté, donc je ne sais pas encore ce que je ferai. » À ce moment-là, la religieuse lui décoche une paire de gifles monumentales et elle lui dit, « Comment, jeune homme, c'est ainsi qu'on parle ?» quand on a eu l'honneur d'avoir été appelé par Dieu à le servir. La leçon apportée, puisque le jeune non seulement s'est fait prêtre, mais s'est fait prêtre dans les conditions les plus difficiles qu'il soit, puisqu'il s'est fait missionnaire aux OMI, les Oblats de Marie Immaculée, qui vont dans le Grand Nord, qui allaient dans le Grand Nord canadien, prêcher aux Esquimaux. Et qui se sont donné un mal terrible pour des résultats très piètres, enfin très minimes. Mais ça, c'est une autre affaire. Il est courant d'entendre dire qu'il n'y a pas de péché à ne pas donner suite à une vocation, à un appel de Dieu. Mais ce n'est pas possible. C'est un péché contre la vertu de justice politique, de la politique chrétienne de l'Église. C'est un péché par rapport à la vertu de justice qui concerne l'Église. peut-être qu'on peut ne pas se damner. Encore que ce soit bien difficile de ne pas se damner quand on ne se met pas dans l'état de vie que Dieu a choisi pour nous. Et c'est une formule qui est devenue courante depuis le XVIIIe siècle. Chacun est libre de suivre ou non l'appel de Dieu parce que c'est un conseil et que ce n'est pas une loi. Et ça, c'est de la morale à la petite semaine qui est réduite aux lois et qui fait fi de la vertu. Quand on a une morale de la vertu de justice nous prend et on répond à l'appel, nécessairement. Mais bien, chers frères, les parents qui m'écoutaient, quels sont les remèdes à ces ennemis de la vertu de justice ? Je vous en ai donné quelques-uns au cours du sermon. Le grand remède, ce sont les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde corporelles font se rendre compte que cela vaut la peine de se donner du mal corporel, de se fatiguer, pour une cause qui nous dépasse. Je vous ai raconté, je n'y reviendrai pas, cette joie que j'ai eue à m'occuper de Madame Mazingarbe avec la conférence Saint-Vincent-Paul, et je vous garantis que j'étais plus heureux qu'elle. Il y a une joie à se donner du mal corporel, physique, à se fatiguer, pour une cause qui nous dépasse, qui n'est pas toujours très élevée. La conférence Saint-Vincent-Paul est une cause un peu élevée quand même. Enfin, bon, ce n'est pas la plus élevée de toutes. Le dévouement auprès des rapatriés d'Algérie était une cause bien plus élevée, et nous en avons eu conscience. Et vous avez les œuvres de miséricorde spirituelle, qui, alors là, nous mettent grandement au service d'un idéal très élevé, par des moyens très élevés, la prière, le pardon des injures, le dévouement dans l'apostolat, la prédication de la vérité, donner des bons conseils, etc., etc. Mes bien chers frères, les parents qui m'écoutaient, et vous les jeunes, pareil, cherchez où vous allez pouvoir vous dévouer. C'est invraisemblable qu'on ait des jeunes qui, au sortir du bac, entrent dans les études supérieures sans se dévouer aucunement. Comment peuvent-ils se préparer au mariage ? Ce n'est pas possible. Voilà les remèdes que j'avais à vous donner. Entretenez également la flamme par les vices. Ayez un idéal qui nous dépasse. Il faut donner aux enfants un idéal réaliste. Il ne s'agit pas de rêver à des choses qui ne seraient pas raisonnables. Nous n'allons pas nous faire missionnaires chez les papous, c'est une évidence. Ni chez les Esquimaux, c'est une évidence. Il y a d'autres papous à notre portée et à notre porte même. Malgré tout, ces récits de Vidsain ou Boulaya ou 21 ans chez les papous ou Bulliard et puis toutes les Vidsains, tous les récits de mission et puis les plus à notre portée, probablement plus à notre portée, les dévouements dans notre Europe, les dévouements. Vous avez également les œuvres de Saint Jean Bosco. Les grands éducateurs qui se sont consacrés à l'éducation. Il faut que vos enfants lisent et lisent beaucoup des récits, et vous avez également La Marche Forcée, par exemple. Lisent et lisent beaucoup de récits de gens qui se sont dépassés pour un idéal qui leur était supérieur, et ils le savaient bien. Demandez, mes bien chers frères, à la Très Sainte Vierge de vous inspirer, de vous faire réfléchir. Je vous ai donné quelques pistes, mais c'est à vous de mettre en œuvre. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Je fais tout ce que je peux avec les amis de Saint-Jean-Bosco. Je mets en œuvre chez les amis de Saint-Jean-Bosco cet idéal de vertu que je vous prêche depuis quelques mois maintenant, vertu de prudence, vertu de justice, on en parlait encore ce matin, je mets cela en œuvre, je leur donne des directions, je leur donne l'enthousiasme, je les fais que les mettre au début de la route, mais c'est déjà beaucoup quand ils sont au début de la route avec la boussole et l'indication de la direction à prendre, c'est déjà beaucoup. Pour le reste, c'est à vous de faire. Alors je vous assure de mes prières, mes bien chers frères, n'hésitez pas également à envoyer les jeunes aux exercices de Saint Ignace que je prêche spécialement pour eux, qu'ils leur font découvrir à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, cet idéal élevé. C'est pas à 20 ans, ni à 22 ans, ni à 25 ans qu'il faut le découvrir, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est à 12 ans qu'on s'enflamme. C'est à 14 ans qu'on s'enflamme. Voilà. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.